Le journal vous est présenté par Anne Fauquemberg.
Bonsoir. Donald Trump a beau avoir célébré sur Twitter sa première grande réforme adoptée par le Sénat, dans la presse américaine aujourd'hui, victoire ternie par l'enquête russe qui se poursuit avec l'inculpation de son ex-conseiller à la sécurité nationale. Explication de notre correspondant Marco Voltaire au début de ce journal. Un nouveau front est-il en train de s'ouvrir dans la guerre au Yémen? Les factions rebelles houthis sont en train de se déchirer. En cause, l'ex-président Saleh qui a fait un pas vers l'Arabie Saoudite. Analyse à suivre du spécialiste du pays, Laurent Bonnefoy. En France, l'ex-socialiste Benoît Hamon renomme son mouvement Génération et veut parler à toute la gauche. Reportage au Mans de Laurence Perron. Enfin, manifestation de chômeurs et de précaires cet après-midi à Paris. Le témoignage de Marie-Christine, bac plus 5, juriste, mais sans emploi à l'âge de 60 ans. Il était en mal d'une victoire législative depuis son arrivée à la Maison-Blanche en janvier dernier. Donald Trump a célébré donc ce matin l'adoption par le Sénat de sa réforme de la fiscalité, un texte qui prévoit une baisse d'impôts historique, notamment pour les entreprises. La dernière réforme de ce genre date des années Reagan. Bonsoir Marco Voltaire.
Bonsoir Anne.
Marco Voltaire, le texte doit encore être harmonisé d'ici la fin du mois avec la version adoptée en novembre par la Chambre des représentants. Mais Donald Trump a célébré donc cette victoire d'étape comme il se doit.
Oui, Donald Trump a tout simplement salué la plus grande réforme fiscale et baisse d'impôts de l'histoire. Alors il est vrai, hein, vous l'avez dit, le pays n'a pas vu ça depuis plus de 30 ans et Ronald Reagan, et que l'essentiel de ce texte a toutes les chances d'être rapidement adopté à la Chambre des représentants. L'impôt sur les sociétés, lui, doit passer de 35 à environ 20%. Les républicains assurent que cela va dynamiser l'économie et recréer de la richesse. Mais, et c'est là que le bât blesse, malgré la croissance et de nouvelles recettes d'impôts, le déficit public sur 10 ans, lui, pourrait se creuser selon les derniers rapports de 1000 milliards de dollars. Dans tous les cas, cette réforme, c'était la grande promesse de campagne de Donald Trump qui parcourt le pays depuis des mois pour prononcer des discours et promouvoir sa baisse d'impôts. Enfin, notez aussi une autre victoire qui se dessine. Le texte voté au Sénat prévoit de mettre fin à l'obligation de souscrire une assurance santé. C'est un pilier de l'Obamacare que le président Trump, vous le savez, a pour l'instant échoué à abroger.
Alors cette victoire législative, elle est tout de même assombrie à lire les gros titres de la presse américaine aujourd'hui, les confrères américains qui ont plutôt noté l'accélération de l'enquête sur l'affaire russe.
Oui, parce que pendant ce temps, Michael Flynn, l'ancien conseiller à la sécurité de Donald Trump, a été inculpé hier et a plaidé coupable d'avoir menti au FBI sur des conversations qu'il a eues avec l'ambassadeur russe à Washington. C'était à la fin de l'année dernière. Alors, sans entrer dans les détails, ce qui compte, c'est que Michael Flynn a dit qu'il va coopérer avec les enquêteurs dans l'affaire russe. C'était, je le rappelle, un poids lourd de la campagne de Donald Trump. Et la grande question, c'est de savoir si l'équipe de Trump a été de mèche avec la Russie pour influencer le résultat de l'élection. D'après les médias américains, Jared Kushner, le gendre et conseiller de Donald Trump, pourrait maintenant être le prochain à tomber dans cette enquête. Donald Trump, lui, a réagi tout à l'heure avant de s'envoler pour New York. Je ne suis pas inquiet, il n'y a pas eu de collision. Mais vous avez dit, dans la presse, la une du Washington Post résume bien ce matin le sentiment qui domine jour de mandat 315, la journée la meilleure, la pire et la plus surréaliste pour Trump.
Merci Marco Voltaire pour toutes vos précisions. Vous étiez en direct depuis New York. Au Yémen, l'alliance entre les deux composantes de la rébellion houthi semble avoir volé en éclats depuis plusieurs jours. Sanaa, la capitale, est en proie aux violences qui, depuis mercredi, ont fait des dizaines de victimes. L'ex-président Saleh, allié jusqu'à présent aux rebelles houthis fidèles à l'Iran, aurait changé de pied. Il vient d'annoncer ce qui peut être considéré comme un rapprochement avec l'Arabie Saoudite. Alors, quelles conséquences sur ce conflit qui a déjà fait plus de 8750 morts et 50 000 blessés depuis 2015? On écoute l'analyse de Laurent Bonnefoy, politologue aux séries de Sciences Po et spécialiste du Yémen.
Alors c'est effectivement très vraisemblablement un tournant, hein, dans le sens où l'alliance qui s'était nouée entre l'ex-président Saleh et puis les Houthis constituait une forme de verrou. Et c'était un verrou que chacun attendait de voir sauter, particulièrement les Saoudiens et les Émiratis. Maintenant, il reste à savoir un petit peu ce que les Saoudiens eux-mêmes vont faire de ce revirement. Par ailleurs, il n'est pas donné que ce revirement change fondamentalement la donne à Sanaa, où les Houthis Et du fait de l'action militaire menée par l'Arabie Saoudite depuis 3 ans, ont malgré tout une assise qui est significative.
Oui, pour l'instant, ce que ça change, c'est que les violences, en tout cas à Sanaa et autour, sont en augmentation depuis quelques jours.
Oui, tout à fait. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui, malgré tout, était assez remarquable. C'est-à-dire que les zones qui étaient contrôlées par ce qu'on appelait ou ce qu'on appelle encore la rébellion Houthi, étaient d'une certaine manière relativement calmes et elles n'étaient affectées par les combats qu'à la marge. Et c'était essentiellement par voie aérienne que les populations civiles étaient affectées.
Laurent Bonnefoy est l'auteur de Yémen, de l'Arabie heureuse à la guerre, publié chez Fayard, des propos recueillis par Benoît Bouscarel. Au Nigeria, au moins 13 personnes ont été tuées selon la police dans un double attentat suicide ce matin. Deux femmes kamikazes se sont fait exploser sur un marché très fréquenté de la ville de Biou dans l'état du Borno. Il y a également près de 20 blessés. Pas de revendication pour le moment, mais le groupe terroriste Boko Haram est soupçonné par les autorités locales. Comment passer d'une peur obstacle à une peur ressource? Comment transformer la peur en aiguillon pour une action positive? Thème de la conférence que va donner d'ici quelques minutes Barack Obama dans l'auditorium de la Maison de la Radio à Paris. L'ex-président américain va s'exprimer devant 800 personnes invitées par le réseau Napoléon. Barack Obama a auparavant rencontré la maire de la capitale, Anne Hidalgo, déjeuné avec Emmanuel Macron, puis c'est François Hollande qui s'est entretenu avec lui au sujet du climat. L'ancien candidat à la présidentielle, Benoît Hamon, pose les fondations de son mouvement politique au Mans, presque 6 mois, jour pour jour, après sa démission du Parti Socialiste et l'annonce du lancement d'un nouveau mouvement à gauche. Le M1717 a été rebaptisé Génération. Officiellement 42 400 adhérents et une volonté de parler à toute la gauche, Laurence Perron.
Sur scène, Benoît Hamon égrène les noms auxquels le mouvement a échappé.
C'est très prétentieux, ça, la gauche.
Ce sera finalement Génération, ce qui convient parfaitement à Simon, jeune militant.
Dès lors qu'il y a l'absence de mention socialisme dans ces groupes, dans ces noms, moi j'adore, je kiffe.
Les socialistes ne sont pour autant pas des parias ici. Le député Luc Carvounas, qui brigue la direction du PS, est présent. Karim Bouamrane, porte-parole également.
On vient écouter, rencontrer des anciens camarades, échanger et puis... On espère fonder les socles du début de la refondation de la gauche. C'est intéressant. J'ai pas été sifflé, donc on avance.
À ses côtés, Cécile Duflo, le prétendu retraité politique Noël Mamer et la sénatrice Esther Benbassa.
Je suis une cosmopolite des tendances de gauche.
Les insoumis Bastien Lachaud et Emmanuel Bompard ont fait une visite de courtoisie aussi pour s'entendre dire ceci.
Nous allons faire souffler le vent, pas seul. Nous allons faire sonner les clairons, pas seul. Les clairons et les trompettes, décidés que nous sommes à nous joindre à toutes celles et ceux qui veulent poser des actes de résistance. Oui, nous résisterons et nous ferons sonner les trompettes.
Mais aussi que la prochaine échéance, ce sera les européennes. Et là, pour générer de l'unité, il va falloir être un génie.
Un reportage de Laurence Perron. Plusieurs centaines de personnes ont manifesté cet après-midi à Paris contre le chômage et la précarité, mobilisation à l'appel de la CGT et d'associations de chômeurs. La précarité n'est pas un métier, c'est ce qu'on pouvait lire sur les pancartes dans le cortège qui est parti de la place Stalingrad pour rejoindre la place de Clichy. Manifestation organisée en cette même période de l'année depuis 15 ans. Marie-Christine s'est mobilisée cette année à 60 ans. Elle fait partie de ces seniors qui ne parviennent plus à trouver du travail.
Je suis juriste et j'ai un bac plus 5, niveau avocate. Alors quand on dit qu'il faut former les chômeurs, tous les chômeurs ne sont pas des personnes qui ne sont pas formées. Mais parfois des seniors comme moi-même. J'ai été licenciée il y a 10 ans et c'est sans cesse des petits boulots, des boulots déqualifiés où on vous en veut d'avoir trop de diplômes et vous faites peur quand vous avez trop de diplômes. Tout est compliqué. Pour s'acheter une carte Navigo, c'est compliqué. Pour payer son EDF, c'est compliqué. Vous ne pouvez pas vous chauffer normalement. Là, en ce moment, il fait 14 degrés chez moi, voyez. Et de passer pour des feignants, c'est compliqué aussi. Les gens cherchent du travail sans cesse. Et ne parviennent pas à en trouver, c'est aberrant d'entendre ça.
Témoignage recueilli par Louis-Valentin Lopez. Enfin, plusieurs magasins Apple pris pour cible par des militants d'attaque ce matin à Dijon, Marseille, Lille, Saint-Brieuc ou encore Paris. Des dizaines de militants altermondialistes sont venus dénoncer l'évasion fiscale pratiquée par l'entreprise Campagne d'Action qui a démarré au début du mois dernier. Les manifestants demandent que la marque à la pomme paye les 13 milliards d'euros demandés par la Commission européenne en raison de ses pratiques fiscales en Irlande. La météo, seule la Haute-Corse reste reste en alerte orange pour risque d'inondation et pour de la neige et du verglas jusqu'à demain matin 6h. 3500 foyers toujours sans courant électrique ce soir dans les deux départements de l'île. Des intempéries qui ont également fait un mort dans le Gard. Attention également demain matin au réveil, il y aura du verglas en région parisienne et en centre Val-de-Loire. Le ciel sera couvert sur une grande moitié nord. Retour du soleil par contre au bord de la Méditerranée. Et les températures, moins 3 à Grenoble, moins 2 à Dijon, moins 1 à Nancy, 1 à Paris, 3 à Lille et jusqu'à 8 degrés à Brest. Ce journal a été préparé avec Caroline Beneteau. À la technique, c'était Inès De Bruyne.